Chapitre 4. Ma douleur s'appelle Melvin.
C'est toujours mieux que Wilson, répondit Alex Wilson. Le mari de Didi ou Organ, par exemple.
Le commissaire adjoint de la brigade criminelle, Cal Organ, était le supérieur de Didi.
Oh, j'en ai parfois ras la casquette de vous deux, mais Melvin, j'en ai plein le dos.
Didi marchait vers son mari, qui l'attendait sur le perron de la modeste maison de ville en briques rouges. C'était la tombée de la nuit. Le soleil se couchait et le fond de l'air était déjà frais en ce début d'hiver. Elle s'était garée à 3 rues de là, comme une habitante du quartier qui rentrerait chez elle après une journée de travail. Ou une policière blessée qui, par le plus grand des hasards, ferait justement sa petite promenade vespérale dans le coin où un assassinat venait d'avoir lieu. Elle n'aurait pas dû être là. Elle n'en avait pas le droit, à vrai dire. Et pourtant, en sortant du cabinet de son nouveau médecin, elle savait qu'elle irait précisément sur cette nouvelle scène de crime. Elle s'était installée au volant, avait tendu la main droite avec précaution vers la lanière qu'Alex avait fixée à l'intérieur de la portière conducteur, puis avait tant bien que mal tiré dessus pour la refermer sans trop malmener son bras gauche. Une opération lente, pénible, laborieuse. Autrement dit, elle avait eu tout le temps de changer d'avis. Elle avait mis le contact, passé la marche arrière. Et d'un seul coup, elle avait ressenti une intense impression de déjà-vu. Elle avait déjà vécu cette scène. Alors que la raison lui dictait de rentrer chez elle, elle était allée sur les lieux d'un crime. Normal. C'était un scénario récurrent dans sa vie. La seule différence, c'était que cette fois-ci, son mari attendait devant le domicile de la victime et qu'il n'avait pas l'air surpris de l'avoir débarqué.
« Ça s'est bien passé, ton rendez-vous »
demanda-t-il en soulevant le ruban jaune vif pour qu'elle puisse le franchir et gravir le perron couvert.
« Je suis censée parler à ma douleur, à ton avis ?»«
Et ta douleur te répond ?»«
Il paraît que c'est dans sa nature. »
« Intéressant.
N'importe quoi. »
Elle s'immobilisa à côté de lui. Le regard d'Alex était aussi calme que d'ordinaire, son expression impénétrable. Le souffle court, elle ressentit des palpitations cardiaques. « La douleur, se dit-elle. » Le processus de guérison qui lui pompait tellement d'énergie que grimper 3 malheureuses marches exigeait un effort phénoménal.
« Ils t'ont demandé de venir ?» dit-elle finalement. Pour avoir ton avis d'expert ?
Alex passait l'essentiel de son temps à enseigner l'analyse de scènes de crime à l'école de police, mais il exerçait également comme consultant. Et à l'occasion, il aimait travailler sur le terrain pour s'entretenir. C'était comme ça qu'ils s'étaient rencontrés quelques années plus tôt. Dans une autre maison, guère différente de celle-ci. Sauf qu'à l'époque, un homme avait selon toute apparence assassiné toute sa famille avant de se tirer une balle. Didi se souvenait encore de sa découverte de cette scène. Elle avait suivi les traînées de sang sous la houlette d'Alex, qui retraçait la chronologie des faits telle qu'il la voyait écrite dans chaque flaque, chaque éclaboussure. L'épouse, la moelle épinière brutalement sectionnée par derrière. Un adolescent athlétique, trucidé d'un seul coup de couteau entre les côtes. Enfin, les 2 plus jeunes enfants qui avaient livré leur dernière bataille dans la chambre du fond. Celui qui n'en était jamais ressorti, et celui qui, pour son malheur, avait réussi à s'échapper. « Je savais que tu viendrais », répondit simplement Alex. « Tu vas me chasser ? Me faire remonter en voiture, là où est ma place ?» Son mari se contenta de sourire, puis tendit la main vers une mèche blonde rebelle qu'il coinça derrière son oreille. « Autant demander au vent de ne pas souffler. Allez, viens. Il se trouve que la police de Boston voudrait bien un coup de main sur ce dossier. » Puisque je suis là, autant faire un tour ensemble.
Tu vois, c'est pour ça que je n'ai pas appelé ma douleur Wilson, répondit-elle en toute sincérité. Mais le visage d'Alex était assombri.
À ta place, j'attendrai un peu avant de me remercier.
La première chose qui frappa Didi, lorsqu'elle entra dans le vestibule sombre, ce fut l'odeur, qui provoqua de nouveau cette sensation de déjà-vu. Elle se revoyait entrer chez Christine Ryan. Respirer cette odeur âcre,
et avoir la certitude, avant même d'avoir vu le cadavre, que ce ne serait pas joli à voir. Et ensuite, ce premier moment d'effroi, quand elle avait compris qu'elle avait sous les yeux la dépouille d'une jeune femme écorchée, la peau amoncelée à côté du corps en longues lanières torsadées. Alex était en train de l'observer. Il ne regardait ni le plancher, ni les murs, ni l'escalier. Autant de sources d'informations intéressantes pour un criminologue. Non, c'était elle qu'il regardait. Et cela, plus que tout le reste, la poussa à se ressaisir. Elle prit une grande inspiration, par la bouche cette fois-ci, et afficha une expression professionnelle. Alex lui montra une poubelle contre le mur. Elle contenait des surchaussures et des charlottes. Tous les enquêteurs présents sur les lieux devaient s'en équiper, précaution supplémentaire dans les cas où l'on jugeait une scène de crime particulièrement complexe ou les indices spécialement fragiles. La procédure n'était donc pas la même que pour l'autre victime. La première scène de crime était abominable, mais pour l'essentiel circonscrite au matelas imprégné de sang. Alors que dans ce deuxième cas, Didi enfila les surchaussures bleues par-dessus ses chaussures à talons plats. Elles étaient larges et élastiques, pas trop difficiles à manipuler d'une main. La charlotte, en revanche, représentait une gageure. Didi ne voyait pas comment la mettre tout en plaquant ses boucles indisciplinées. Il fallut qu'Alex l'aide. Frôlant des doigts la naissance de ses cheveux, il rassembla ses frisettes blondes et les rentra dans la charlotte. Elle ne broncha pas pendant qu'il accomplissait cette opération. Le souffle de son mari lui caressait le cou. À l'exception des moments où il l'aidait à prendre sa douche, cela faisait des semaines qu'il ne s'était pas touché autant. « Regarde », murmura Alex en désignant le mur de l'escalier. Elle suivit la direction de son index et repéra immédiatement, juste au-dessus de la première contre-marche, une traînée sombre sur la peinture claire. La première trace de sang. Et là aussi. Il montrait une tache au sol, à une quinzaine de centimètres du pied de Didi. Dans le jour qui déclinait, on n'y voyait pas grand-chose, mais cette trace était plus grande, plus marquée. Didi se baissa pour l'examiner de plus près, et Alex alluma sa lampe de haute intensité. Il éclaira la tache, et Didi ne put retenir une exclamation. « Une empreinte de patte ?» La victime avait une petite chienne, Lily, une boule de poils, vu le mur de l'escalier. À mieux y regarder, Didi comprit ce qu'il voulait dire. À cet endroit, la tache présentait une configuration bien particulière. Des dizaines de fines lignes rouges, comme il s'en produit lorsque des poils trempés de sang effleurent le sol ou un mur. « Pelage raide plutôt que bouclé », murmura Didi. « Mais oui, Lily est une petite boule de poils. » D'où les surchaussures, comprit-elle alors. Parce que la chienne, toute innocente qu'elle était, avait déjà contaminé la scène de crime et que les enquêteurs ne pouvaient pas se permettre de nouvelles sources de distraction. Alex se dirigea droit sur les escaliers, mais Didi le retint. Elle voulait encore une minute pour prendre ses repères, se faire une première idée de la maison et de son occupante. Une entrée modeste, nota-t-elle, une banquette à coussins fleuris avec au-dessus et en dessous des chaussures en pagaille. Didi remarqua des bottes, des sabots et plusieurs paires de chaussures à talons. Des souliers pratiques, dans les tons neutres, marron et noir, avec des talons raisonnables. Exclusivement pour femmes, du 41. De l'entrée, on passait dans un petit séjour où se trouvait un canapé vert cendré capitonné, un peu élimé, et une ottomane assortie. Un plaid en polaire posé en vrac à un bout du canapé et une couverture pour chien qui protégeait l'ottomane. Des vêtements entassés pêle-mêle sur un siège d'appoint, le linge à plier, et face au canapé, un téléviseur à écran plat de taille moyenne. Quittant le salon, Didi entra dans une cuisine dont la décoration datait des années 70, jusqu'au lino jaune d'or vieillissant et à la gazinière vert-olive qui remontait à Mathusalem. Au contraire du séjour et de l'entrée, qui semblait habité, cette pièce ne contenait pratiquement aucune trace de vie. Une cafetière Keurig, un petit micro-ondes sur le plan de travail, une assiette, une paire de couverts et un verre dans l'évier. Clairement la cuisine d'une adepte des plats emportés. Didi était bien placée pour le savoir, parce qu'avant son mariage, la sienne était presque la jumelle de celle-ci. Alex et elle regagnèrent l'entrée. « Infirmière, je dirais », raisonna Didi à voix haute. « Elle gagne correctement sa vie, assez pour acheter ce logement, mais pas assez pour mettre les meubles de cuisine au goût du jour ou faire des folies dans une boutique de déco. Elle travaille debout presque toute la journée, d'où les chaussures confortables. Célibataire ou au tout début d'une relation, mais dans ce cas, ils vont chez lui parce qu'ici, c'est son territoire et qu'elle n'est pas encore prête à le partager. » Alex haussa un sourcil.
Pas loin. Regina Barnes, 42 ans. Récemment divorcée, ergothérapeute dans un établissement pour personnes âgées à deux pas d'ici. Je ne sais pas si elle avait un nouveau petit ami, mais on n'a ni témoin ni trace d'effraction.
Peut-être qu'elle venait de rencontrer quelqu'un, ou qu'elle entretenait une relation par Internet. Elle lui aura ouvert la porte.
Alex ne répondit pas. Les techniciens fouilleraient l'ordinateur et les autres appareils électroniques de la victime pour reconstituer ses activités en ligne. Son domaine à lui, c'était les empreintes de pattes et les traces de sang discontinues qui menaient en haut des escaliers.
Aucune trace d'effraction non plus chez Christine Ryan, rappela Didi. Et ses amis affirment qu'ils auraient été au courant s'il y avait eu un nouveau petit ami virtuel ou autre. Les voisins n'ont rien entendu ?
Non.
Elle toqua à la cloison pour vérifier comment cela sonnait. Dans ces quartiers, les maisons n'étaient pas connues pour la qualité de leur isolation phonique. Une lutte à mort, des cris, n'aurait pas dû passer totalement inaperçue.
Des caméras dans la rue ? Une alarme dans la maison ?
Rien.
Heure du décès ?
Entre minuit et 2 heures.
Peut-être qu'il surprend ses victimes dans leur sommeil, ce qui explique qu'il n'y ait aucune trace de résistance.
Mais comment entre-t-il ?
Il crochète la serrure ?
Didi se retourna et examina le mécanisme de la porte d'entrée. Comme il convenait à une femme qui vivait seule en ville, Regina ne plaisantait pas avec la sécurité de sa maison. La serrure était relativement neuve, remarqua Didi. Christine Ryan, la première victime, était tout aussi prudente. Alex attendit sans mot dire que Didi en arrive à la même conclusion que lui.
« Possible, » murmura-t-elle. « Mais pas facile. »«
Il y a peu de chance. »
« Mais si elle lui a ouvert la porte, il n'y a qu'une assiette et un verre dans l'évier. Aucune convivialité. Ce n'est pas comme si elle avait invité un ami intime à prendre un dernier verre. Des indices dans le séjour ou la cuisine ? Empreintes de chaussures, cheveux, fibres ?
Pas d'empreintes de chaussures. Pour les cheveux et les fibres, c'est en cours. »
Elle hocha la tête et contempla l'empreinte de pattes pendant qu'Alex prenait de nouveau la direction des escaliers. Didi se dérobait devant l'obstacle. Elle restait les deux pieds coulés dans le béton au lieu de faire enfin ce premier pas et de monter les escaliers vers la grande chambre pour arriver au cœur du problème. Redoutait-elle à ce point la scène qu'elle allait découvrir ? Ou bien était-ce pire encore et redoutait-elle les escaliers ? Alex donna finalement l'exemple, gravit les premières marches, et Didi n'eut d'autre choix que de le suivre. En chemin, Alex éclaira d'autres traces de sang avec son faisceau de haute intensité. Des empreintes de pattes, certaines complètes, d'autres non, laissées par la petite chienne qui avait monté et descendu les escaliers. Puis, sur le palier, une traînée nettement plus importante, comme si quelqu'un avait voulu éponger une grosse flaque de sang avec une serpillière.
Il va falloir qu'on procède à quelques essais pour voir si on peut reproduire cette trace,
commenta Alex.
Mais je dirais qu'elle a, elle aussi, été laissée par la chienne. Elle était agitée, elle est restée un moment à côté du cadavre et puis elle a fait des allées et venues dans le couloir. Là, je crois qu'elle s'est couchée un moment, en haut des marches, peut-être pour attendre les secours.
Didi avait de nouveau du mal à respirer. Le fait d'avoir monté les escaliers, se dit-elle. Mais elle se cramponnait comme une malheureuse à la rampe et éprouvait une sensation d'étouffement anormale. Comme si un géant avait plongé son gros poing dans sa poitrine et lui broyé les poumons. Elle se pencha légèrement en avant, s'aperçut qu'elle haletait. Des points blancs se mirent à flotter devant ses yeux.
« Un bébé dans un berceau, dans un arbre tout en haut. »
« Prends ma main, du calme. Respire. » Inspire par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, souffle par le nez.
1, 2, 3, 4, 5.
Tranquille, ma belle, tranquille. Une minute s'écoula. Peut-être 2, 3, 10.
Didi se rendit compte avec embarras que tout son corps était agité d'un tremblement incontrôlable et qu'elle transpirait. Elle sentit des gouttes de sueur perler sur son front, rouler sur ses joues. L'espace d'un instant, elle éprouva l'irrésistible envie de redescendre les escaliers en courant et de sortir dans la rue à toute vitesse. Elle allait fuir, prendre ses jambes à son cou et ne jamais se retourner. Les doigts d'Alex étaient entrelacés aux siens.
« Rien ne t'oblige à faire ça, » dit-il posément.
« On s'en va, dès que tu veux, » Didi. « Je te reconduis à la maison. » L'effet fut immédiat. La voix d'Alex était si patiente, si compréhensive, que Didi ne put que serrer les dents et redresser l'échine. Elle ne voulait pas être cette personne-là. Cette femme faible et tremblante qui avait besoin du soutien de son mari pour monter ses satanés escaliers. Elle inspira en comptant jusqu'à 5. Expira. Releva la tête.
« Je suis désolée, » dit-elle bientôt, en regardant tout sauf le visage d'Alex.
« Il va falloir en mettre un coup sur le cardio-training. »
« Didi. »
« Tout ce temps à rester allongé, on sera molli. »
« Didi. »
« Peut-être qu'au lieu de donner un nom à ma douleur, je devrais l'obliger à faire des tours de stade. Ça lui ferait les pieds. »
« Arrête ça. »
« Quoi ?»«
De me mentir. Que tu aies besoin de te mentir à toi-même, je veux bien. Mais pas à moi. » C'est la première fois que tu viens sur une scène de crime depuis l'accident. Que tu fasses une petite crise de panique.
Je ne panique pas.
Avoir une réaction émotionnelle n'est pas anormal. Tu n'es pas en marbre, chérie.
La voix d'Alex se fit douce.
Tu es une vraie personne. Et les vraies personnes ont peur, souffrent et doutent. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ça veut simplement dire que tu es un être humain.
Je ne panique pas. Ronchonna-t-elle, le regard toujours fuyant.
Puis elle demanda, parce qu'il fallait qu'elle sache,
« La chienne va bien ?»«
Elle est chez les voisins. D'après ce que j'ai compris, c'était déjà plus ou moins une deuxième maison pour elle. »«
Elle était couverte de sang, forcément, hein, pour laisser une trace de cette taille. Il fallait qu'elle ait les pattes, le ventre plein de sang, à cause du matelas. Elle a dû s'allonger à côté de sa maîtresse et de ses monceaux de lanières de peau. »
On peut rentrer à la maison, Didi, quand tu veux.
Se balance au gré du vent,
murmura-t-elle.
Qu'est-ce que tu dis ?
Didi se contenta de sourire, puis releva la tête et bomba le torse.
Tomberont bébé, berceau et le reste,
conclut-elle en prenant le couloir. La scène avait été laissée plus ou moins en l'état. Le cadavre n'était plus là, bien sûr, mais le matelas imbibé de sang, la bouteille de champagne, les menottes doublées de fourrure étaient toujours là, ainsi que le drap ensanglanté, désormais punaisé au mur nu. Didi avait déjà vu cette technique. On suspendait du linge de lit, des vêtements et même des pans entiers du revêtement de sol sur les lieux du crime, pour faciliter l'analyse des traces. Il lui fallut tout de même s'armer de courage lorsqu'Alex alluma le plafonnier et chassa les ombres de plus en plus denses pour révéler dans toute sa splendeur la scène barbare.
Je leur ai demandé de laisser autant d'éléments que possible, expliqua Alex, pour pouvoir les étudier in situ.
Didi hocha la tête. Son épaule gauche pulsait douloureusement. Même marque de champagne, fit-elle observer en évitant de regarder le drap suspendu.
Phil pense que le tueur apporte tout le nécessaire avec lui. Champagne, menottes, roses.
Les accessoires de sa pièce.
Il a une idée bien arrêtée de ce qu'il veut. Pas n'importe quelle bouteille, pas n'importe quelle fleur. Ces objets précis.
Un rituel. Ce n'était pas la première fois que Didi se faisait cette réflexion. Ils avaient sous les yeux le fantasme longuement mûri d'un tueur. D'autres idées encore lui revinrent comme les ombres d'un rêve. Le VICAP ? Demanda-t-elle. Le Violent Criminal Apprehension Program comprenait une base de données alimentée avec les descriptifs détaillés des homicides qui se produisaient aux quatre coins du pays. Les enquêteurs avaient la possibilité de la consulter pour faire des rapprochements entre un crime commis dans leur secteur et d'autres faits semblables perpétrés ailleurs.
Je suis sûr qu'ils sont en train de l'interroger.
Il compose un tableau romantique,
murmura Didi.
Fleurs, champagne, gadgets sexuels. Mais ce qu'il veut, c'est dominer, contrôler totalement la situation.
Alex ne dit rien. Il se retourna et pointa le mince faisceau de sa lampe vers le couloir. Le rayon blanc éclaira des dizaines de traces, pour la plupart, celles de pattes sanglantes, la chienne qui avait fait les 100 pas. Puis il dirigea la lumière vers le sol de la grande chambre. Et Didi fut aussitôt fascinée par le contraste. Une piste d'empreintes de pattes conduisait du lit double à la porte. Et on voyait également une légère salissure à côté de la table de chevet de droite. Une éclaboussure que le tueur avait tenté d'essuyer. À part ça, rien. Dans cette chambre qui avait été le théâtre d'un des meurtres les plus atroces que Didi ait jamais vu, il n'y avait pratiquement pas de traces de sang. Ni au sol, ni sur les murs.
Mais,
bredouilla-t-elle. Puis elle reprit avec davantage d'autorité.
Ce n'est pas possible.
On ne peut pas charcuter un être humain sans se retrouver couvert de sang des pieds à la tête. Et le tueur n'a pas pu se déplacer dans cette chambre et encore moins ressortir dans la rue sans laisser une piste grosse comme une maison. Même en nettoyant derrière soi avec une serpillière imbibée d'eau de Javel, on ne peut pas tout enlever. C'est bien le charme de ton métier. Même si on ne voit plus le sang à l'œil nu, il en reste qui n'attend que la lumière de haute intensité ou le produit chimique adéquat pour dénoncer le meurtrier.
Ça, dit-elle en désignant le parquet pratiquement immaculé. J'ai beau le voir, je n'y crois pas.
Comme je te le disais, la police de Boston n'aurait rien contre un petit coup de main dans cette affaire. Alex avança plus avant dans la pièce et balaya méthodiquement le sol avec son rayon. Droite, gauche, droite. On commence par le drap. Je crois que c'est là que tout démarre.
Didi hocha la tête et sur un signe, éteignit docilement le plafonnier. Dans l'obscurité quasi complète, il était plus facile de se concentrer sur la lampe d'Alex, qui faisait d'un drap housse un gigantesque et macabre test de Rorschach.